France Info.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur France Info. Au sommaire des informés ce soir, les féminicides avec une réaction populaire. Un rassemblement aujourd'hui à Paris, place de la République, avec une intervention de Muriel Robin, vous l'entendrez dans un instant. Au sommaire ce soir de la politique, à la recherche d'idées nouvelles et de valeurs, ça se passe chez les Républicains. Et puis à gauche également, le PS, les Verts, les communistes et la France Insoumise se sont donné rendez-vous dans un festival d'idées. Si, si, c'est vrai, vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis nous parlerons sport et politique avec une interview exceptionnelle demain du président de la République. Il sera à 16h sur France Info avant la finale de la Coupe du Monde féminine de football. Nous parlerons donc sport et politique avec les informés de ce soir autour de la table. Étienne Girard, bonsoir.
Bonsoir Noé.
Journaliste politique à Marianne. Maud Guillaumin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste. Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques à l'ENS et chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Caroline Mécari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et engagée pour la défense des droits et des homosexuels. Et je vais montrer votre que sais-je que vous nous avez apporté, PMA et GPA, avec une préface de Serge Éphèse.
Merci.
Bienvenue sur France Info, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télévision sur le canal 27. 74 femmes ont été tuées depuis le début de l'année, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On donne le nom de féminicide. Contre la violence faite aux femmes, il y avait donc un rassemblement aujourd'hui, place de la République à Paris. Muriel Robin est très impliquée. La comédienne interpelle le président de la République.
Les autorités sont dans une situation de non-assistance à personne en danger, puisque ces personnes-là, sur les 74, puisqu'encore hier soir, une femme a été tuée à coups de couteau, assassinée devant ses quatre enfants, rien n'est fait, non-assistance à personne en danger. C'est très très grave. Je demande au président, pour lui, et j'aimerais une réponse, combien coûte la vie d'une femme ? Parce que là, maintenant, il ne faut plus des petites mesurettes, des petits kikis comme ça, des petites miettes pour nous faire attendre, repousser. C'est très, très grave.
Caroline Mécaré, vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. C'est vrai ce qu'elle dit, Muriel Robin, c'est non-assistance à personne en danger, ou c'est une formule comme ça qu'on peut
non,
utiliser ?
C'est une formule, mais ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire le fait qu'il ne se passe rien depuis que le président de la République a pourtant déclaré la violence faites aux femmes, enfin la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause nationale, c'est vrai,
oui.
Il y a une inaction en réalité, c'est-à-dire il y a des mots, oui, blablabla, mais en réalité, il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis que le président de la République a déclaré cette grande cause ? Ben, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les femmes meurent toujours sous le coup de conjoint ou d'ex-conjoint. Lorsqu'elles vont déposer plainte, eh bien, on leur dit « c'est pas possible, c'est pas la peine, enfin, revenez, déposez une main courante ». Donc déjà, il y a un vrai problème du traitement, éventuellement, de la plainte qui est déposée. Est-ce qu'il y a plus de places d'hébergement aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans ? Absolument pas. Il nous manque au moins 200 places d'hébergement. Est-ce qu'aujourd'hui les juges aux affaires familiales utilisent pleinement les ordonnances de protection, c'est-à-dire ce qui permet d'éloigner l'homme violent vis-à-vis de la femme en présence des enfants? Non, il n'y en a pas davantage. Est-ce qu'on utilise la possibilité qui est possible quand on met en examen un homme pour des violences sur sa femme? Évidemment, quand elle est morte, c'est trop tard, mais quand la femme a survécu au coup, qui permet de mettre un bracelet électronique pour qu'il ne vienne pas à proximité d'elle, est-ce que c'est fait? Non, ce n'est pas fait. Pourquoi ça n'est pas fait? Tout simplement parce qu'on ne se donne pas les moyens. La France ne se donne pas les moyens. Quand on regarde...
Mais ce sont des moyens quoi? Financiers?
Ce sont des moyens humains. Alors, c'est des moyens humains, d'abord, de formation pour les policiers, pour les juges. C'est des moyens en termes d'hébergement.
Les policiers, on dit déjà ça pour plaintes sur l'homophobie,
par exemple. Absolument. Mais je ne voulais pas aller sur ce terrain-là, mais c'est une problématique qui est absolument... C'est une problématique qui est générale. Là, on parle des violences faites aux femmes et des féminicides, c'est-à-dire le fait d'être tué simplement parce qu'on est une femme, eh bien, c'est la même chose effectivement pour l'homophobie, c'est la même chose pour le racisme. Il y a une problématique très générale, mais qui a corrélé avec les choix de politique économique, c'est-à-dire que d'un côté, on diminue les recettes de l'État, après on vient vous dire que les services publics, ils n'ont plus les moyens, et on ne met pas les moyens. Donc voilà, il faut vraiment taper du poing sur la table.
Benjamin Morel, on ne fait rien, les politiques ne font rien?
Alors, non pas qu'ils ne fassent rien, mais si vous voulez, il y a en effet
à mon sens, deux points qui sont fondamentalement dysfonctionnels. D'abord, comme ça a bien été dit, la question des moyens. Parce que c'est pas qu'une question de féminicide. Il n'y a pas aujourd'hui les moyens pour que le service public de la justice fonctionne bien. Donc, évidemment, eh bien, vous avez des dysfonctionnements à tous les étages, notamment concernant cette question-là des féminicides, avec du coup une politique publique qui n'est pas menée et qui ne va pas jusqu'au bout. Donc là, il y a un vrai problème. Ensuite, il y a un problème, on va dire, administratif. Aujourd'hui, on a un secrétariat d'État qui est dirigé par Marlène Schiappa, avec du coup une grande cause nationale qui est derrière elle. Mais si vous voulez, c'est pas elle qui a les manettes. Les manettes, elles sont à la chancellerie. Donc dire on a une grande cause nationale, on crée un secrétariat d'État, d'accord, mais fondamentalement...
Mais ça aide déjà ça un petit peu, le fait d'en parler,
alors, ça peut aider un petit peu, si vous voulez, mais encore une fois, ça permet de justement d'avoir une communication politique qui ronde cet objet à la fois palpable et visible, mais fondamentalement aujourd'hui, eh bien, les grandes causes qui peuvent être menées par Marlène Schiappa souffrent également d'un manque de collaboration d'autres ministères, notamment de la chancellerie. Donc on voit qu'au-delà du symbole, au-delà du secrétariat d'État, eh bien, il y a quelque chose qui doit être mené par l'ensemble du gouvernement, et ça c'est beaucoup plus large encore une fois qu'une cause, qu'un symbole, ça doit tirer l'ensemble de l'administration.
On va revenir, juste, Caroline.
Par rapport à ce qui a été déjà dit, en effet, je pense que quand même, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des femmes qui avant se taisaient. Et maintenant, on a bien vu, malheureusement, dans les derniers drames qui viennent de se produire, que c'était des femmes qui étaient allées déposer des mains courantes, que c'était des femmes qui étaient allées porter plainte. Et ça, c'était quelque chose de relativement nouveau et qui vraiment prend de l'élan. De la même manière, toujours dans ces drames récents, ce sont des voisins souvent qui sont allés porter plainte, qui ont appelé la police. Alors que, rappelez-vous, avant il y avait le silence, le tabou. Et ça, je pense qu'on a déjà brisé ces deux choses. Le tabou des femmes elles-mêmes qui vont porter plainte, le tabou des voisins. Et là où, en effet, ça bloque, c'est quand on va porter plainte, c'est quand derrière, il n'y a pas tout le suivi. Et le suivi, il est très net. Toutes les plaintes, toutes les mains courantes qu'elles ont déposées n'ont strictement rien donné. J'entendais encore une mère de famille dont la fille a été tuée il y a 2 ans, elle avait pourtant déposé plusieurs mains courantes sans du coup pouvoir ne rien faire derrière. Derrière, il faut une action et en effet, comme vous disiez, des places ouvertes.
Il faut convoquer l'auteur, il faut faire une enquête, etc. Donc ça, c'est aussi des moyens. Excusez-moi, le secrétariat...
Le débat continue évidemment sur France Info. On y revient après le rappel de l'info. À 20h10, c'est avec vous, Léo Téchère.
Les premiers bouchons aujourd'hui sur la route des vacances, 2h30 pour faire Lyon-Orange au lieu d'1h30 habituellement. Ce sera pareil demain. Bison Futé vous conseille d'éviter l'autoroute A7 entre 9h et 21h et de quitter les grandes agglomérations avant 9h du matin. Une semaine après le Sea-Watch, un nouveau navire humanitaire accoste de force avec des migrants dans le port de Lampedusa en Italie. Un autre bateau attend toujours ce soir au large de l'île. La semaine dernière, la capitaine allemande Carola Rackete avait été arrêtée pour les mêmes raisons. En France, manifestation aujourd'hui de pompiers. Une cinquantaine de soldats du feu ont bloqué la circulation sur un rond-point du centre-ville de Limoges. Ils dénoncent leur abandon par les pouvoirs publics. Que s'est-il réellement passé le 1er décembre 2018 à Marseille? Acte 3 des Gilets jaunes, une grenade lacrymogène explose alors à la fenêtre d'une grand-mère, Zineb Redouane, qui décède le lendemain à l'hôpital. Sa famille a déposé une nouvelle plainte pour faux en écriture publique aggravée. Une caméra de surveillance semble notamment avoir dysfonctionné. Les Bleus en finale de l'Euro féminin de basket. Les Françaises ont battu la Grande-Bretagne 63 à 56 ce soir en demi-finale à Belgrade. Et puis le Néerlandais Mike Tennyson remporte la première étape du Tour de France à Bruxelles. Victoire au sprint devant le Slovaque Peter Sagan et l'Australien Caleb Evans. Le Tour qui reste à Bruxelles demain pour un contre-la-montre par équipe.
France Info. France Info. Les informés. Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous sur France Info, les informés jusqu'à 21h. Nous continuons d'évoquer les femmes battues, les femmes tuées sous les coups de leur ex ou de leur conjoint. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice qui a annoncé la généralisation d'un nouveau type de bracelet à l'automne. Nicole Belloubet chez nos amis d'Europe 1.
J'ai demandé que nous mettions en place un dispositif très efficace qui s'appelle le dispositif anti-rapprochement.
C'est le bracelet électronique d'éloignement.
Le bracelet électronique d'éloignement. Eh oui. Ce n'est pas simple à faire parce que vous entendez bien que cela peut porter atteinte à la liberté individuelle d'aller et de venir. Donc il faut que les choses soient encadrées, soient claires.
Il faut changer la loi.
Et j'ai besoin d'un dispositif législatif. Ouais. Je vais donc demander à ce qu'une proposition de loi soit très rapidement portée pour me permettre de généraliser cela.
Sur ce sujet, Étienne Girard, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes journaliste politique à Marianne. C'est une bonne chose, cette annonce et cette généralisation?
Bien sûr, ça va dans le bon sens.
On parlait du manque de moyens, notamment de la justice.
Oui, alors là, on n'est pas dans le manque de moyens. On est dans des réformes législatives à faire. C'est à l'évidence, a priori, une bonne réforme, même si ça attente à certaines libertés individuelles. Mais c'est indispensable quand on sait que 47% des féminicides, en fait, concernent des cas qui avaient fait l'objet d'un signalement quelconque. C'est pas toujours des plaintes, ça peut être des mains courantes à la la police. Mmh. Donc, c'est une matière dans laquelle la police, les services publics sont au courant qu'il y a un sujet, qu'il y a quelque chose. Donc, les bracelets électroniques, oui, pourquoi pas. Il y a aussi la question des ordonnances de protection. Parce que quand on sait qu'il faut, on en discutait en début avant l'émission, 6 à 8 semaines pour qu'une ordonnance de protection, en raison des délais de justice, soit établie en faveur d'une femme battue, il peut se passer énormément de choses dans ces 6 ou 8 semaines. Alors le gouvernement, par la voix du porte-parole du ministère de la Justice, a dit qu'il allait travailler également sur ce sujet-là. Donc il y a des sujets législatifs, puis il y a le sujet évidemment des moyens. Les associations spécialisées réclament 500 millions pour accompagner les femmes qui se disent victimes de violences conjugales. Le gouvernement propose de mettre sur la table aujourd'hui 79 millions. Donc le compte n'y est pas. En Espagne, c'est 200 millions, par exemple. Donc, il y a forcément quelque chose de mieux qu'on peut faire si c'est la grande cause nationale.
L'Espagne qui a fait reculer les chiffres de féminicide, Caroline Mécari.
Absolument, par des différents dispositifs, en se donnant vraiment les moyens, parce qu'il y a une prise de conscience aussi nationale, mais vous avez aussi le Québec, qui est très, très en avance, en fait, sur ces questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que je voulais quand même rappeler que le secrétariat d'État de Mme Schiappa, hein, son budget, c'est 30 millions d'euros, c'est-à-dire une goutte d'eau. Donc, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs législatifs comme celui proposé par Mme Belloubet, qui va dans le bon sens. Ouais. Ça va dans le bon sens. Mais ensuite, il faut la gestion humaine. C'est-à-dire, qui va être... il faut des... C'est comme pour la vidéosurveillance. Il suffit pas de mettre des caméras partout. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent voir et qui puissent regarder. Sinon, ça sert strictement à rien. Hein. Donc c'est bien un sujet de moyens. Et la question des délais pour l'institution judiciaire, c'est bien la question du nombre de juges. C'est tout. C'est pas du nombre de juges et de greffiers, parce que je vous rappelle que les greffiers sont aussi essentiels au fonctionnement de la justice.
On pourrait aussi mettre en place un référé, j'imagine, qui permettrait de saisir en urgence un juge aux affaires familiales.
Mais ça existe déjà. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de magistrats pour traiter la chose. Et donc, je vous assure, les juges aux affaires familiales, la plupart du temps, ils essaient de faire le maximum. Mais parfois, on peut pas... c'est pas difficile. Quand moi, j'ai commencé à travailler comme avocate, il y a 30 ans, un référé, on pouvait l'avoir en 48 heures. Aujourd'hui, si on arrive à l'avoir en 15 jours, mais on est content, quoi.
Donc Marlène Schiappa, apparemment le journal du dimanche annonce qu'elle va réagir demain et qu'elle va répondre à cet élan aujourd'hui, cette manifestation Place de la République à Paris. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Alors là, très sincèrement, moi, je suis extrêmement dubitative, hein, parce que je vous rappelle quand même que lorsque le président de la République a déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause nationale, c'était encore à la suite d'un féminicide. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Je le disais tout à l'heure, pas grand-chose, ou quasiment rien. Donc, vraiment, les effets d'annonce, ça suffit, quoi.
Benjamin Morel ?
Oui, alors a priori, on aurait probablement un Grenelle sur ces questions-là. Si vous voulez, prenons parallèle avec le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement est plutôt un Grenelle qui avait réussi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait fait dialoguer des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de dialoguer. Est-ce que là, on a vraiment affaire à des acteurs qui n'ont pas l'habitude de dialoguer, qui donc n'ont pas les solutions entre les mains et, d'une certaine façon, de ce dialogue pourraient émerger de nouvelles solutions ? La réponse est non. C'est-à-dire que, fondamentalement, quand on écoute aujourd'hui la liste des revendications des associations, qui n'apparaissent tout de même pas tout à fait extraordinaires et inenvisageables, les solutions, elles sont là. Elles sont du domaine réglementaire pour beaucoup, du domaine législatif pour bien moins peu, et surtout du domaine des moyens. Donc, Un Grenelle, ça peut sans doute permettre, encore une fois, de faire de la communication, ça ne résoudra pas le problème.
Je voudrais vous faire réagir, Morgane Seliman, victime de la violence de son conjoint pendant 4 ans et auteur du livre « Il m'a volé ma vie », a dit ce soir sur France Info « Je pense qu'on traite vraiment les choses à l'envers. Il ne faut pas prendre les femmes pour les isoler, les protéger, mais prendre les auteurs de violences conjugales et les isoler. » Ça n'est pas le cas aujourd'hui, Étienne Girard ?
J'imagine que c'est le cas à chaque fois que c'est possible. Là, il y a un sujet qui est de est-ce qu'il faut enfermer ou les personnes qui sont soupçonnées de violence conjugale. Là, il y a le sujet aussi de la présomption d'innocence. Il y a le sujet des faits en eux-mêmes. Si les faits sont accablants, j'imagine que des mesures peuvent être prises. C'est pas forcément toujours le cas. Et on n'y a pas des places en prison, j'imagine, pour chaque homme qui est soupçonné de tel fait. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un certain nombre d'autres procédés qui permettent de protéger les femmes.
On parlait de l'accueil lorsque l'on veut déposer plainte dans un commissariat. Certaines associations, Caroline Mécari, proposent que les plaintes soient déposées à l'hôpital. Il y aura un meilleur accueil.
Écoutez, il faut quelqu'un qui soit. D'abord, il faut quand même rappeler que les policiers ont l'obligation de prendre les plaintes. Ils ont l'obligation de les prendre.
C'est une obligation. Dans beaucoup d'affaires, c'est fait.
Non. Dans beaucoup d'affaires, on vous dit déposez juste une main courante. Une main courante, ça ne sert à rien. Une main courante, c'est la déclaration de n'importe quoi. Mais juste parce que les policiers ont tellement de travail par ailleurs qu'ils ne veulent pas. Alors, il y a plusieurs facteurs. Soit ils ont trop de travail, soit ils ne prennent pas la plainte au sérieux, soit ils n'ont pas envie de la traiter, soit ils ne peuvent pas la traiter pour de multiples raisons. Parce que le service public de la police, lui aussi, souffre d'un manque de moyens. C'est vraiment. On leur demande toujours plus à chaque fois moins de personnel. Parfois, il y a un manque de formation aussi. Donc, s'il doit y avoir quelqu'un à l'hôpital, ça ne peut être pour prendre une plainte, c'est nécessairement, ça doit être quelqu'un qui représente l'institution de la police ou de la gendarmerie. Peut-être que l'accompagnement serait préférable, mais là aussi, à l'hôpital, on souffre d'un manque de moyens absolument drastique. Oui, regardez comment fonctionnent les urgences.
Ça changerait strictement rien.
C'est une problématique de moyens, de formation. Et donc, est-ce qu'on se donne vraiment les moyens par
rapport à... De toute manière, la problématique, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'on prenne la plainte à l'hôpital ou au commissariat, c'est pareil. Le commissariat, en effet, a fait des progrès pour ce genre de plainte. C'était bien pire il y a quelques années, que ce soit pour les viols, Il y a eu des progrès de fait, je pense qu'on peut encore nettement s'améliorer. Déplacer ce problème à l'hôpital n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En revanche, par exemple, par rapport à ce que Marlène Schiappa peut annoncer demain, et par rapport à l'idée d'un Grenelle, c'est en effet mettre en commun ce qui a pu être fait au Canada et en Espagne, puisqu'en effet, il y a parfois des petites idées simples qui pourraient être adaptables, qui ne coûtent pas toujours tant de moyens que ça. Non. Je sais qu'évidemment, ça compte et c'est le nerf de la guerre. Mais c'est des choses qui ne sont pas appliquées ici et d'ailleurs que les associations soulignent souvent.
20h20 sur France Info, le rappel de l'actualité avec vous Léo Téchère.
Une spectaculaire explosion ce soir en Floride. Un centre commercial soufflé dans la ville de Plantation près de Miami. La toiture éventrée et près d'une vingtaine de blessés selon les pompiers qui continuent de chercher des victimes. Des fuites de gaz constatées sur les lieux, mais la cause de l'explosion n'est pas encore confirmée. Encore une femme tuée par son compagnon la nuit dernière à Perpignan, le 74e féminicide depuis le début de l'année selon les associations qui appelaient à une manifestation ce soir à Paris. Des centaines de personnes rassemblées sur la place de la République. Un appel à témoins lancé près de Lyon. Un adolescent de 16 ans est mort la nuit dernière après un accident de trottinette. Il s'était fait percuter par une voiture qui circulait en sens inverse jeudi à Vénissieux. Des orages ce soir sur une grande partie est de la France. Vigilance orange dans 23 départements, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. De la grêle et des rafales de vent constatées. Pas de miracle aujourd'hui pour les Français à Wimbledon. Les Capouilles éliminées en 3-7 par Roger Federer. Même score pour Joe Wilfried Tsonga, écarté par Rafael Nadal. Il ne reste donc que deux Français en lice, qualifiés pour les huitièmes de finale. Hugo Humbert et Benoît Paire. Et puis, encore une surprise à la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, pourtant tenant du titre, éliminé 3-2 par le Nigeria. Hier, le Maroc avait déjà été éliminé par le Bénin. Encore un match à jouer ce soir, les pharaons égyptiens contre les Bafana sud-africains. Coup d'envoi à 21h.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous sur France Info, la suite des informés avec Étienne Girard, Maud Guillaumin, Benjamin Morel et Caroline Mécari. Quelles sont les valeurs des Républicains? Un peu perdus après la présidentielle, les Républicains ne se sont pas vraiment retrouvés après les élections européennes. La journée d'aujourd'hui, avec une convention nationale, était donc consacrée aux échanges sur les valeurs du parti. Jean Leonetti, président par intérim des Républicains, était ce matin sur France Info.
Je m'adresse au peuple français, voilà. Et quand on s'adresse au peuple français, bien sûr, je m'adresse à mes militants. Ils sont déçus, ils sont en colère, et il faut qu'on se parle. Mais la consultation que je veux sur les valeurs et sur les engagements, je veux qu'elle dépasse largement le cadre des militants. Je veux que sur Internet, chaque Français puisse dire, voilà, c'est le parti de l'ordre, de la justice, c'est le parti de la responsabilité, c'est le parti de la liberté, c'est le parti qui valorise le travail. Et j'y adhère.
Jean Leonetti, ce matin, sur France Info. Maud Guillaumin, la stratégie des Républicains, c'est maintenant de parler au peuple.
C'est une stratégie de survie. Hein. En effet, là, ils sont quand même étouffés d'un côté par La République En Marche, de l'autre par, évidemment, Marine Le Pen, qui, forte de son très bon score aux européennes, va essayer de gagner encore et marcher sur leur territoire. Moi, sincèrement, je pense pas du tout que les Républicains soient morts, dans le sens où ils incarnent encore un parti... qui loin d'être celui d'Emmanuel Macron, se veut un parti familial, de valeurs, et pas du tout aussi ultra-libéral. Il est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont passés aux européennes chez Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est vraiment un territoire de fond. Il est vrai qu'aujourd'hui, personne ne peut représenter en 2022 les Républicains. Il y a un gros problème de personnalité. Mais dire que toutes les idées et les valeurs qu'incarnait l'UMP et après les Républicains, elles ne sont pas mortes. Je pense qu'on est vraiment dans la même situation qu'en 2002, au moment où Chirac a créé l'UMP. Il fallait d'un seul coup retrouver un nouveau souffle. Et c'est ça ce qui manque aujourd'hui.
Et donc avec cette adresse au peuple, Étienne Girard, est-ce que c'est la bonne stratégie?
Et vous avez déjà vu un parti ne pas expliquer qu'il s'adresse au peuple. Non, c'est assez vide en d'idées, cette adresse au peuple. La vérité,
c'est quoi? C'est un aveu d'échec jusqu'à maintenant d'un parti déconnecté alors.
Ils sont perdus, ils sont paumés, là, les Républicains. Ils ont pris un énorme coup sur la tête aux élections européennes. J'avoue que moi-même, j'étais stupéfait en regardant les résultats dans certaines villes, à Versailles, à Neuilly, dans le 16e arrondissement de Paris, bastion immémoriel des Républicains et de leurs ancêtres gaullistes. La République En Marche arrive en tête extrêmement largement. Ça veut dire que l'électorat des Républicains, cet électorat-là, familial, oui, peut-être, qui aime l'ordre et qui aime le libéralisme, eh ben, il vote ça y est, il est passé à Emmanuel Macron. Alors, comment on fait? On n'est jamais mort en politique, et ça vaut aussi pour les partis. Donc là, ils essayent de retrouver un peu d'espace. Donc, ils expliquent que eux sont la synthèse parfaite, en réalité, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, puisqu'ils sont à la fois l'ordre et le libéralisme. Pour l'instant, ça n'a pas convaincu. Il faudrait que un des deux partis dont on vient, c'est-à-dire le Rassemblement National ou la République En Marche, dévie de sa trajectoire. Par exemple, si La République En Marche basculait un peu trop à gauche, pour qu'il retrouve de l'espace. On est dans la politique fiction, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe.
Benjamin Morel, en tout cas, le but de cette convention aujourd'hui, c'est plutôt que de chercher des idées, c'est de se définir par rapport à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen.
Bah, si vous voulez, c'est de tenter de créer une forme d'unité, parce que qu'est-ce qui aujourd'hui fait la force des Républicains? Qu'est-ce qui fait que c'est encore le premier parti d'opposition en France? C'est leur armée d'élus locaux, c'est le Sénat, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il faut essayer de réunir ces gens, de les faire discuter et de leur dire, ben regardez, vous avez quand même des choses en commun. Parce que c'est ça qui fait la force de ce parti qui souffre aujourd'hui, non pas d'un problème de programme et de valeur, c'est pas vrai. D'une certaine façon, ils ont même plutôt bien vu les choses sur les Gilets jaunes quand on prend les PPL du groupe Les Républicains au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais si vous voulez, ce qui leur pose aujourd'hui problème, c'est en effet un problème d'espace politique et un problème de leadership. Pour une formation qui fondamentalement est plutôt de type bonapartiste, ne pas avoir de chef, c'est un problème.
C'est la difficulté
pour
du
moment. Un grand parti qui était un parti attrape-tout, ne pas avoir d'espace politique, c'est un gros problème. Mais ça met également le point sur ces débats sur les valeurs, sur un autre danger pour les Républicains. C'est que fondamentalement, aujourd'hui, entre les élus, les Républicains d'un côté, les militants de l'autre et les citoyens de droite, eh bien, il n'y a pas les mêmes valeurs. Donc, se concentrer sur ce débat-là aujourd'hui, c'est probablement une solution, c'est également un grand danger.
Ne bougez pas, les informés continuent jusqu'à 21h. On revient après l'info, à tout de suite.
Alice voyage avec Ulysse, le célèbre badge télépéage qui évite de faire la queue et de tendre le bras pour atteindre la borne de péage. Mais comme Alice en veut toujours plus, elle aimerait ne pas avoir à payer un abonnement toute l'année. Heureusement, avec son badge Ulysse temps libre, Alice ne paie que quand elle s'en sert. Quand j'utilise, je paie. Quand je n'utilise pas, je ne paie pas, qu'elle dit tout le temps Alice. Bref, grâce à Ulysse temps libre, plus d'attente, ni de crampes au bras pour Alice.
Ulysse, le télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse.
C'est malin, c'est Ulysse.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo avec vous Jean-Michel Golinski.
Le risque d'orage fort se confirme pour ce soir et la nuit prochaine dans le quadrilatère Haut-Rhin, Sud-Bourgogne, Cantal, moitié nord des Alpes. Et puis notez que la nuit prochaine, d'autres orages forts vont se développer de l'est du Midi-Pyrénées à la frontière italienne. Donc méfiance sur l'ensemble des départements placés en vigilance orange. Demain, des orages moins virulents vont encore se faire entendre une bonne partie de la journée entre le Jura, les Alpes, le Massif central et sur l'est des Pyrénées. Le long de la Manche et des frontières du Nord, a priori, le ciel sera souvent assez gris avec même un peu de pluie au nord de la Seine. Ailleurs, temps sec et variable avec des entrées maritimes au sud de la Garonne aux premières heures. Et puis en Méditerranée, le vent d'ouest sera sensible. Le tout dans des températures maximales stationnaires près de la Méditerranée en forte baisse du nord au nord-est. Une baisse qui sera plus modérée sur la moitié ouest du pays.
Merci d'être avec nous sur France Info, il est 20h30.
France Info.
2 points, ouvrez l'info.
L'info, Emmanuel Langlois.
Plusieurs centaines de personnes, 2000 selon les organisateurs, 1200 pour les forces de l'ordre, ont manifesté à Paris, place de la République, pour exhorter le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre les féminicides en France. Parmi ces manifestants, des inconnus ou la comédienne Muriel Robin, très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Tous, en tout cas, ont observé 74 secondes de silence en hommage aux 74 victimes recensées cette année par le collectif. Dans la manifestation, Morgane Seliman, qui a, elle, subi la violence de son conjoint pendant 4 années, son témoignage.
Il faut des manifestations comme ça pour qu'on puisse en parler. Je pense pas qu'il y ait plus de féminicides différents, c'est juste qu'avant on n'en parlait pas et qu'enfin on en parle. En fait, c'est très très important. J'ai le plus manqué finalement d'écoute et de soutien de la part, entre guillemets, de l'État, de la justice et de la police. Parce que je pense qu'on traite vraiment le problème à l'envers. En fait, il faut s'occuper des auteurs de violence. On s'occupe pas assez des auteurs de violence. C'est vraiment les auteurs qu'il faudrait prendre et qui devraient partir et être soignés, pas forcément en prison, mais dans des centres spéciaux. En fait, je pense qu'on prend les choses à l'envers et c'est ça tout le problème.
Une manifestante cet après-midi, place de la République contre les violences faites aux femmes. Un homme placé en garde à vue après l'incendie d'un immeuble, c'était ce matin à Poitiers. Le feu a fait 1 mort, 1 blessé grave, intoxiqué par les fumées, et 13 blessés légers. Faible participation des Gilets jaunes à l'occasion d'une nouvelle journée nationale de mobilisation. Aujourd'hui, à Paris, Bordeaux, encore Toulouse, ancien haut lieu des manifestations, eh bien les cortèges n'ont attiré au mieux que quelques centaines de personnes. L'état d'urgence décrétée dans 2 comtés du sud de la Californie, à l'épicentre des 2 séismes qui ont frappé la région jeudi et surtout hier, avec plus de 7 degrés de magnitude. Ce tremblement de terre est le plus important depuis 20 ans. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Los Angeles, Las Vegas. Par chance, aucune victime et peu de dégâts signalés. Premier maillot jaune pour Mike Tönnissen, avec un peu plus d'un boyau d'écart, rien du tout. Donc le Néerlandais a privé Peter Sagan de la victoire dans la première étape du Tour de France. 194 km en Belgique et une arrivée devant le château royal de Laeken à Bruxelles. La principale victime du jour, le Danois Jakob Fuglsang, qui a dû se faire poser 3 points de suture à l'arcade après une chute. Demain, deuxième étape, toujours au Tour de Bruxelles. Les basketteuses françaises, elles sont qualifiées pour la finale de l'Euro. Pour la 4e fois d'affilée, les Bleus ont éliminé la Grande-Bretagne, 63 à 56 tout à l'heure à Belgrade. Battues lors des 3 dernières finales, les Françaises affronteront pour le titre la Serbie ou l'Espagne qui se disputent ce soir le dernier ticket. Le match vient de commencer. Il est 20h33 sur France Info. Les informer, ça continue.
France Info, les informer, Noé Da Silva.
Bienvenue ou merci d'être resté avec nous, les informés jusqu'à 21h. Étienne Girard est avec nous, Maude Guillaumin, Benjamin Morel et Caroline Mécari. Alors vous mettez au même endroit des insoumis, des socialistes, des communistes, des écologistes et cela donne le Festival des idées. Où ça? À la Charité-sur-Loire. Oui, oui. Je vous propose d'écouter Manon Aubry, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot.
On m'a pas envoyé cette invitation comme une invitation à participer à une réunion des gauches pour faire le programme de 2022. Savoir qui va tirer son chapeau pour être président de la République en 2022, je trouve ça un peu ridicule.
Plusieurs candidatures, c'est la certitude de la défaite. C'est arithmétique. Il n'y a aucune chance en fait d'aller au deuxième tour s'il y a plusieurs candidats qui se revendiquent de la social-écologie.
La grande alternative, c'est autour de l'écologie. D'autres peuvent penser autre chose. Et c'est bien en démocratie, on n'a pas à être tous pareils.
Donc il ne faut pas parler, si on veut se parler à gauche, il ne faut pas évoquer 2022, Benjamin Morel.
Oui, si vous voulez, c'est un peu plus complexe que ce que j'en ai entendu. C'est-à-dire la politique, ça n'est pas que de l'arithmétique. Celui qui gagne une présidentielle, c'est également celui qui mobilise son électorat. Et pour mobiliser votre électorat, eh bien, il faut avoir un programme qui parle à cet électorat. Qu'est-ce qu'a été la gauche historiquement? La droite, il y a toujours eu plusieurs droites, bonapartistes, orléanistes, etc., qui partageaient pas forcément les mêmes valeurs. La gauche, elle, s'est toujours reconnue autour d'une idée. Ça a d'abord été la République, ça a ensuite été la laïcité, ça a ensuite été la cause sociale. Quel est aujourd'hui l'élément qui fait l'unité de cette gauche? C'est loin d'être évident. On voit très bien que entre ce qui a été la social-démocratie ou le social-libéralisme à la droite du Parti Socialiste et le macronisme aujourd'hui, bah, il y a évidemment des atomes crochus. C'est même cette idée-là qui a enfanté aujourd'hui ce qu'est la République en marche. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Alors l'écologie, mais vous parlez écologie à tout un électorat de la première gauche, d'une certaine façon, électorat populaire. Vous voyez que c'est pas tout à fait ça qui fait l'ADN de cet électorat. C'est encore la cause sociale, c'est d'autres questions. Et cet électorat-là, justement, est en train de balancer à droite et de partir au Rassemblement National. Donc entre ces différents partis, il y a des intérêts électoraux différents et à partir de là, faire l'union de la gauche, discuter, bah, c'est beaucoup plus complexe. On peut se retrouver, dire qu'on fait programme commun, c'est probablement voué à l'échec.
Mais Guillaume, on est loin du programme commun?
Ah bah déjà, unir des appareils politiques qui sont tous très peu crédibles, c'est difficile de recréer une vraie
Pourquoi
bonne
très
dynamique.
Peu crédible?
Bah parce qu'après ce qui s'est passé avec où on voit d'un seul coup Raphaël Glucksmann obligé d'être le fer de lance de la gauche alors que quasiment personne connaissait Raphaël Glucksmann, je pense que c'est quand même assez symbolique. Mais tout miser sur l'écologie, ce serait aussi une grosse erreur. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2009, par exemple, les Verts avaient fait un très beau score aux européennes. Ils étaient à près de 16%. Et 3 ans plus tard, Eva Joly se retrouve avec 2,3% au présidentiel. C'est vraiment des problématiques, des élections qui sont complètement différentes. Donc aujourd'hui, croire que Yannick Jadot peut être le nouveau candidat n'est pas non plus l'élément clé. Vous le disiez, en effet, à gauche, on sent bien qu'il y a un mouvement de gauche, un élan de gauche qui n'existe plus parce qu'il n'y a pas vraiment de définition aujourd'hui face à la mondialisation.
Là, ils ont envie de se retrouver.
Oui, mais on a que des gens qui sont très opposés les uns aux autres. Quand on dit directement, Manon Aubry qui directement explique qu'elle n'a rien à faire avec les gens du PS, on se demande déjà ce qu'elle fait à la charité pour essayer de trouver des idées à cette grande loterie des idées, quoi.
Étienne Girard.
Moi, je me rappelle.
C'est une fausse bonne idée, ce Festival des idées?
Non, c'est, non. C'est jamais une fausse bonne idée. De se parler. Moi, je suis la gauche depuis quelques années. Je me rappelle avoir assisté à des carrefours des gauches, à des affiches de la gauche. C'était exactement les mêmes discours. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Donc, il faudra s'allier le moment venu. Et c'est vrai que quand on reste sur les idées, il n'y a pas de problème. Sur l'écologie, ils sont tous plutôt d'accord. Sur la lutte contre les inégalités, ils sont tous plutôt d'accord. Sur la lutte contre les lobbies pour le bien public, ils sont tous plutôt d'accord. Pour les services publics, ils sont tous plutôt d'accord.
Ah, tout va bien, alors.
Eh ben, sur les idées, oui. Mais alors, quand on passe à la phase suivante, comment se mettre d'accord? Sur quelle base? Avec qui? Eh ben, là, tout est fini. Parce qu'on a Jean-Luc Mélenchon qui ne supporte pas plus de s'allier avec les socialistes qu'il a quittés. On a Yannick Jadot qui est arrivé premier de la gauche aux élections européennes et qui dit maintenant... Oui, la star autoproclamée, même si bon, la citation est un peu plus compliquée que ça. Alors, qui dit, bah, ça doit être moi qui m'élargis maintenant la gauche. On a le PS, bon, bah, qui pour le coup assume plutôt d'être devenu une force d'appoint. Donc, on comprend pas bien comment ça va se passer. On pense même, pour l'instant, que ça va être très difficile. Il y aura peut-être des alliances locales. Ça peut servir à des alliances locales, aux municipales puis aux régionales.
Caroline Mécari, c'est un problème d'ego à gauche?
Bah, y a toujours dans, en politique, il y a toujours une, dimension personnelle. C'est-à-dire que malgré les bonnes idées qu'on peut partager, en effet, les personnalités et les volontés éventuellement d'avoir pour soi le pouvoir peuvent empêcher une unité. Ça, c'est très très clair. Je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, moi, je suis plutôt assez. Je fais partie des gens qui sont assez désespérés de la gauche écologiste. Hein. Mais ce que je sais, c'est que même si, quand on prend l'exemple de 2009, 16% Europe Écologie Les Verts, ok, très bien. Puis après 2% à la présidentielle, oui. Mais aujourd'hui, la différence, 10 ans plus tard, c'est que je crois qu'on a une conscience de la, comment dire, du caractère de l'urgence climatique qui est vraiment en train de poindre. Et il n'y aura pas de, enfin. On ne peut se sauver, mais collectivement, que si en effet, on est sur un projet qui est à la fois écologique et social. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Ça doit impérativement être les deux, parce que l'écologie passe par la transition écologique qui implique le social aussi. Et donc ça, je pense que ça modifie peut-être la conscience. Et c'est le discours de Raphaël Glucksmann sur ce point-là, en tout cas.
Benjamin Morel.
Je crois qu'on se leurrait en pensant que l'écologie est de gauche et que l'écologie va sauver la gauche. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'écologie est probablement l'élément dans la sphère politique qui est le mieux partagé. Du Rassemblement National à l'extrême gauche, tout le monde en parle. Et donc dire c'est le cheval de bataille de la gauche, ben, d'une certaine façon, ça ne définit pas aujourd'hui la gauche. Alors on peut toujours dire
c'est le moyen non, mal de fait, se
entre,
parler.
Entre le fait de dire chacun fait du greenwashing pour arriver à mobiliser.
Oui, mais on peut dire la même chose d'une certaine façon pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. L'écologie, c'est pas une priorité.
Ah non, pas du tout. Là, tu te trompes parce que Martine Billard a rejoint Jean-Luc Mélenchon.
C'est une priorité. Oui, non, mais qu'il y ait des gens qui, au sein de la France insoumise,
y compris
pour la France insoumise, mais pas pour son électorat. Pour l'électorat de la première gauche, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça pose de vrais problèmes qui sont des problèmes de définition. Par ailleurs, sur les grands enjeux qui sont aujourd'hui ceux de la modernité, et je jure un peu avec ce que disait Étienne, mondialisation, immigration, etc. Sur ces questions-là, il n'y a pas de vrai discours de gauche, il y a plutôt des clivages.
On va suivre en tout cas ce festival des idées et on aura l'occasion, bien évidemment, d'y revenir dans les informés sur France Info. Une pause avec le rappel de l'info, Léo Técher, 20h40.
Dans 48 heures, une femme va mourir. C'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui sur une des pancartes brandies à la manifestation contre les féminicides. 74 meurtres de femmes par leur conjoint depuis le début de l'année. Ils veulent se réinventer face à La République En Marche. Des partis de gauche comme la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts réunis ce week-end dans la Nièvre. Et les dirigeants et principaux élus des Républicains, eux, rassemblés à Paris, chacun de leur côté. Donc, ils débattent de leurs valeurs et cherchent à sortir du face-à-face Macron-Le Pen. Et des dizaines de milliers de manifestants réunis aujourd'hui en Allemagne. Rassemblement de soutien aux ONG qui sauvent des migrants en mer Méditerranée, comme l'ONG Sea-Watch et la capitaine Carola Rackete, libérée par la justice italienne mardi dernier. Ce soir, un nouveau navire humanitaire accoste de force avec 40 migrants à son bord dans le port de Lampedusa. Un orange en jaune, c'est le néerlandais Mike Tennyson qui remporte la première étape du Tour de France à Bruxelles, victoire au sprint devant le Slovaque Peter Sagan et l'Australien Caleb Evan. Le Tour qui reste à Bruxelles demain pour un contre-la-montre par équipe. Et puis les Suédoises terminent 3e de la Coupe du Monde féminine de football. Elles ont battu l'Angleterre 2-1 tout à l'heure en fin d'après-midi. La finale c'est demain, États-Unis Pays-Bas à 17h.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés jusqu'à 21h et nous évoquons la Coupe du Monde féminine de football. Elle se déroule en France, la finale c'est demain, ce sera sans les Bleus. En revanche, Emmanuel Macron, lui, sera sur France Info demain à 16h pour parler de sport. Et nous avons retrouvé une interview avec déjà Jacques Vendroux, c'était sur France Bleu à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017. Le candidat Emmanuel Macron parle des Français dans les grands moments comme les Jeux Olympiques par exemple.
Quand on prépare les Jeux, on sent une vibration dans tous les secteurs qui sont concernés, chez tous les sportifs, et tout le monde se met ensemble, ça crée des passerelles entre les sports, c'est formidable. Ensuite, c'est un élément de mobilisation et de fierté pour le pays, et où il y a une espèce de communion qui se fait un moment qui permet de se transcender. Et la France est très bonne dans ces moments-là. La France est un pays qui adore les chicayas en période calme, mais qui est capable de se réconcilier, d'aller beaucoup plus loin que tous les autres quand il y a un défi de cet ordre.
Voilà, on se souvient de ce mot chicaya, hein, les petites disputes. Étienne Girard, c'est un moyen aussi de retrouver un petit peu de cohésion, de ferveur. Et ça, tout président de la République en rêve.
Oui, ouais, tout à fait. C'est intéressant l'extrait que vous venez de passer parce que je pense que vous pouvez le copier-coller et vous aurez à peu près exactement le même discours demain après-midi avec peut-être une autre
alors,
expression.
Le talent de Jacques
Vendroux
fera qu'il va nous dire des choses très différentes.
On aura une expression désuète un peu différente que chicaya parce qu'il faut bien se renouveler, mais voilà, donc on aura un propos consensuel voilà, qui ne mange pas de pain et qui est tout à fait à sa place, le président de la République, en ayant ce discours là mais qui reste du domaine de l'anecdotique. Et c'est vrai que les présidents aiment beaucoup parler de sport parce que c'est rassembleur. Un des spécialistes était Nicolas Sarkozy, qui tous les étés, tous les mois de juillet, allait sur le Tour de France et étalait sa culture est tout à fait importante du cyclisme et du Tour de France.
Je crois qu'il aime vraiment.
Oui, ah non, mais
oui,
tout à fait.
Ça,
on sentait une sincérité d'ailleurs qu'on ne sentait pas forcément dans tous ses discours politiques.
Mais Guillaume, est-ce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, ne va pas essayer de profiter de son été, parce que l'année dernière,
après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, pour le coup,
il
aurait vraiment voulu profiter de la victoire des Bleus et il avait vraiment dû faire profil bas. Là, il a été très content du déroulé du grand débat. Il a été très heureux de pouvoir débattre parfois pendant 5, 6, 7 heures avec les Français. Et je crois qu'il a envie de continuer à garder cette parole directe. N'oublions pas que ça y est, il est sur le terrain et lui, il prépare les municipales. Il estime que le score aux européennes n'était pas si catastrophique que ça. Et au contraire, eh bien, il faut profiter de cela. On l'a dit tout à l'heure quand on a parlé des Républicains. Le but de La République En Marche, c'est d'essayer d'attirer le plus possible de candidats des Républicains et de les faire passer chez La République En Marche. Il a d'ailleurs demandé à Stanislas Guérini, qui est le patron de La République En Marche, de préparer. Ça doit être une campagne de terrain. Il faut essayer de faire comprendre aux Français que ça y est, maintenant, La République En Marche est un vrai parti de terrain. C'est quelque chose d'encore nouveau. Hein. 2017, c'est encore très frais. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas. Face à eux, ils ont notamment des élus républicains qui, eux, comme Christian Jacob, hein, qui pourrait être un président pour les Républicains, justement, parce que justement, pour les municipales, quelqu'un comme Christian Jacob, c'est un vrai homme de terrain. Lui, il a les pieds. Il a les pieds dans la boue, dans la glaise. Il connaît ça.
Donc
ça,
c'est très important. Emmanuel Macron en campagne des municipales.
Pour moi, c'est exactement ça. Et là, il va être plutôt sur le sable et sur les terrains de foot, peut-être, et aussi sur le Tour de France. Mais oui, c'est ça l'idée.
On l'avait pas vu l'année dernière. Il serait peut-être sur le Tour de France cette année. Benjamin Morel, vous êtes d'accord avec Maud?
Oui, un président est toujours en campagne, si vous voulez. Puis là, on rentre dans une période assez intense en élection, donc tout va être envisagé, et c'est pas blâmable, si vous voulez, n'importe qui à sa place ferait la même chose, en visant les élections suivantes. Est-ce que c'est habile? Je suis pas certain, parce qu'on a eu un Emmanuel Macron qui, juste après le grand débat, nous a fait une conférence de presse en nous expliquant qu'à présent, il y avait une répartition des tâches qui était très claire, que lui serait le président un peu à la De Gaulle, si vous voulez, qui incarnerait cette unité au-dessus des partis, allait faire...
Mais qui va voir les Français, c'est ce qu'il veut faire.
Qui va voir
et
les Français.
Et Édouard Philippe qui travaille.
Mais il faut parfois être un peu plus taiseux. C'est-à-dire, quand vous allez au match, oui. Quand vous allez voir le Tour de France, oui. Quand vous faites une interview pour parler sport, il y a tout de même une forme de déprésidentialisation qui peut lui être relativement nuisible. Qui plus est, il faut un peu démystifier cette idée qu'une victoire sportive ou qu'un grand événement vous ferait remonter dans les sondages. On prend souvent les sondages de Jacques Chirac et de Lionel Jospin au moment de la Coupe du Monde 98, et on dit qu'ils ont pris beaucoup de points, on oublie que deux mois plus tard, ils les avaient perdus. Donc très clairement, pour Emmanuel Macron, il y a probablement assez peu à gagner sur ce terrain-là.
Alors on ne sait pas ce que va dire Emmanuel Macron sur le sport féminin demain, mais je vous propose, et Caroline Mécari, vous serez la première à réagir, je vous propose d'écouter Ségolène Royal chez nos confrères de Yahoo et qui s'exprime sur le sport féminin.
Il faudrait analyser et remettre en cause les discriminations inconsciente ou parfaitement consciente, sous prétexte que le sport féminin est un sous-sport, en gros, et qu'aux prochains Jeux Olympiques, on voit autant sur les télévisions du sport féminin, mais bien sûr, peut-être un jour même des équipes mixtes. Pour moi, ce serait formidable, des équipes mixtes. On me dira, c'est impossible, mais qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas du foot à équipe mixte?
Alors Caroline Mécari, vous dites quoi? Pourquoi pas ou qu'est-ce qu'elle
raconte? D'abord, ce que je voudrais souligner, c'est quand même qu'elle fait un lien entre l'appréhension qu'on a du sport féminin, qui est qui est dévalorisé par rapport au sport masculin, tout simplement parce que j'ai envie de dire qu'au fond, dans les sociétés, les femmes sont dévalorisées par rapport aux hommes. Ça vient de là. Après, ça se répercute. Moi, son pourquoi pas ne me pose aucun problème en réalité. Je n'ai pas d'idée préconçue par rapport à sa proposition. Ça peut être intéressant, vraiment. Je n'ai pas de souci avec ça.
Vous avez l'air surprise.
Non, je suis pas surprise parce qu'en réalité, d'abord, il existe des équipes de rugby ou qui sont mixtes déjà. En fait, c'est pas si fréquent que ça, mais ça existe. Et pourquoi ne pas envisager cette mixité dans ce sport-là? Pourquoi se mettre des barrières et dire oui les hommes, les femmes, etc. On peut être complémentaires en réalité. Enfin, en tout cas, ça mériterait d'être testé, ne serait-ce que ça. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente et que je jouais au foot, je jouais avec les garçons. Et ben oui, j'étais pas la seule fille. C'était des équipes mixtes.
Même ça, c'était à l'école.
Mais peu importe. Et alors, peu importe. Après, on a des qualités différentes, etc. Enfin.
Mais à l'école, on avait tous des équipes mixtes.
Et ben oui, donc, pourquoi ne pas l'envisager? Moi, j'ai pas d'obstacle à cette idée-là. Parce que du coup, ça remet en cause, ça réinterroge les images, les représentations.
Mais quand elle dit que le sport féminin est dévalorisé, je vois pas comment on peut dire le contraire. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir le salaire des joueuses de tennis, les sponsors.
Les joueuses de foot.
Les joueuses de foot, à la rigueur, je peux rien dire parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a encore 7 ans, on vous aurait dit qu'il y aurait eu ces audiences, on n'y aurait jamais cru. Personne n'y aurait jamais cru. Mais les joueuses de tennis, ça fait, depuis les années 80, ça explose. Il y a eu des tas de championnes très très connues. Et pourtant, aujourd'hui, on les déconsidère totalement, alors qu'il y a quelqu'un comme Serena Williams qui est une joueuse extraordinaire.
On va passer au coup de cœur dans un instant. Il est 20h50. Le rappel de l'info, Léo Téchère.
Et attention aux orages. Ce soir, 23 départements placés en vigilance orange par Météo France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté, sont attendus des rafales de vent et de la grêle qui est déjà tombée ce matin dans la Loire. Épisode violent d'une quinzaine de minutes à Charlieu, près de Roanne. Encore du monde demain sur la route des vacances, classée orange dans le sens des départs pour une grande moitié est de la France. Bison QT vous conseille notamment d'éviter l'autoroute A7 entre 9h et 21h et de quitter les grandes agglomérations avant 9h du matin. Au Soudan, le Conseil militaire s'engage à appliquer l'accord de transition démocratique. Le pouvoir sera progressivement rendu au peuple. La contestation civile annonce annuler une campagne de désobéissance civile. Et les États-Unis saluent ce soir cet accord de transition après des semaines de manifestations parfois réprimées dans le sang. Les deux Français du jour éliminés à Wimbledon. Pas de miracle pour Lucas Pouille et Benoît Paire contre Roger Federer et Rafael Nadal. À chaque fois, même sentence, défaite en 3-7. Il ne reste donc que deux Français qualifiés pour les huitièmes, Hugo Humbert et Benoît Paire. Et puis, le Tour de France, ça se passe aussi du côté des supporters. Et l'image du jour, ce sont ces dizaines de gilets jaunes rassemblés le long de la route près de Bruxelles. Un fumigène jaune et cette banderole déployée. Le peuple pédale dans la misère. Côté sportif, c'est le Néerlandais Mike Tennissen qui remporte cette première étape.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés jusqu'à 21h avec les coups de cœur de nos informés ce soir, comme chaque week-end. Et on commence par vous, Caroline Mécari, un coup de cœur très sérieux pour un jeune homme.
Oui, mon coup de cœur en fait, c'est que je pense à Steve, ce jeune homme qui a participé à la fête de la musique il y a maintenant exactement 15 jours et qui, à la suite d'une charge des policiers, est tombé avec 13 autres personnes, enfin en tout cas est tombé, a disparu.
À Nantes.
Il a disparu à Nantes, dans la Loire justement. Il a disparu et dans un premier temps, vraiment, je trouve que la réaction des autorités publiques ont été pour le dire assez simplement, fautive, c'est-à-dire il s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu de charge, alors que les vidéos montraient en réalité une très grande violence, l'utilisation aussi de grenades de désencerclement. Ensuite, il n'y a eu absolument aucune compassion de l'administration, du préfet de police. C'est tout à fait normal de dire que lorsqu'il y a une manifestation qui n'est pas autorisée, on agit de cette manière-là. Finalement, il y a quand même eu une enquête qui a été ouverte par le procureur de la République, et il y a aujourd'hui 85 personnes qui ont déposé plainte contre X, parce que on ne sait toujours pas où est passé Steve, et je tenais vraiment à, j'imagine l'angoisse et le désespoir de sa famille, de ses amis, des personnes qui l'entourent, et vraiment j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur Steve.
Qui a disparu donc pour l'instant depuis 15 jours. C'était le coup de cœur de Caroline Mécari. Maud Guillaumin, votre coup de cœur, c'est un livre et un conseil de lecture peut-être à emporter en vacances.
Oui, ça s'appelle On ne choisit pas qui on aime. Je ne sais pas si vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille, oui. Ou qui raconte l'histoire notamment de Madame de la famille Le Quesnoy. Donc c'est comme si Madame Le Quesnoy, qui au lieu de se marier, d'avoir 6 enfants, mais en fait Madame Le Quesnoy avait rencontré d'un seul coup, au moment de se marier, d'avoir une vie très classique, avait rencontré une femme. C'est ce qui est arrivé à Marie-Clémence Bordet-Niquez, qui est donc une jeune femme très classique, très catholique, et qui s'est jamais sentie homosexuelle une seule seconde. Et c'est juste, on ne choisit pas qui on aime. Elle tombe amoureuse d'une femme. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a un enfant grâce à la PMA. Et elle raconte ce témoignage. Je trouve que ce témoignage est intéressant parce que c'est vrai que souvent, on a des témoignages d'homosexuels qui se sont toujours sentis homosexuels, qui se sont sentis dans une communauté. Et elle, au contraire, elle raconte qu'elle elle s'est jamais sentie dans cette communauté. Et comment, justement, se ressentir au milieu de tous les gens qui ont marché pour la manif pour tous, donc contre le mariage homosexuel. Et elle, c'était toute sa famille et c'était tous les gens qu'elle aimait, ouais. Qu'elle a essayé de convaincre petit à petit. Et voilà, et c'est son discours politique.
Et très beau titre.
Voilà, et on ne choisit pas qui on aime. Je trouve que c'est un très beau titre parce que je pense que c'est vrai.
Clémence Bordet-Niquez. Étienne Gérard, une série.
Et oui, c'est la série de science-fiction à voir en ce moment. C'est sur Netflix, ça s'appelle Dark, c'est une série allemande.
ultra ambitieuse, au scénario haletant. Alors, il est question de voyage dans le temps, d'enfants qui disparaissent à 33 années d'intervalle dans une grotte. C'est difficile d'en dire beaucoup plus, sans spoiler un peu les rebondissements multiples de l'intrigue. En tout cas, on est surpris, stupéfait à chaque épisode.
Vous avez déjà tout vu?
Alors j'ai vu toute la première saison et je suis en train de regarder la deuxième saison qui vient de sortir la semaine dernière. Je vous raconterai pas toute l'histoire, mais en tout cas, allez regarder ça. Si vous avez quelques heures à perdre, ce sera pas perdu.
Série allemande, c'est pas sur Arte, c'est sur Netflix. Voilà. Benjamin Morel, vous, c'est un projet de loi.
Oui, enfin un projet de loi, plutôt l'évolution du projet de loi en question, c'est le fameux projet de loi Notre-Dame. Les questions de préservation du patrimoine sont des questions qui me touchent et qui en fait sont très peu politisées, alors qu'elles sont fondamentalement politiques. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a fait des ouvertures législatives en matière de protection du patrimoine qui fragilisent notre patrimoine. Il faut quand même dire que si les touristes viennent en France, c'est pas tellement pour notre sympathie, c'est surtout pour ce patrimoine qui est exceptionnel dans le monde. On parle notamment de ça au moment du Tour de France. Le projet de loi Notre-Dame était un projet de loi qui posait réellement problème, avec notamment un article 9 qui crée beaucoup d'exceptions au code du patrimoine et pouvait permettre des réaménagements extrêmement dangereux de l'île de la Cité. Finalement, le gouvernement qui avait porté ce projet a rétropédalé. On avait un projet de loi qui était dangereux. Aujourd'hui, on a juste un projet de loi inutile. C'est déjà plutôt pas mal et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc la dernière version du projet de loi Notre-Dame, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié ces derniers temps. C'était donc le coup de cœur de Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS et chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été l'un des informés ce soir avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, Maude Guillaumin, journaliste, et Caroline Mécari, avocate spécialisée en droit de la famille et engagée pour la défense des droits des homosexuels. On rappelle votre que sais-je, PMA et GPA. Demain, édition spéciale des informés avec Jean-François Aquili à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde féminine de football et de l'interview que le président de la République accorde à France Info demain après-midi à 16h.